utilisée, et puis voilà, elle le met en œuvre et elle va taper ses textes avec l'ordinateur. Ici, à un enseignant, on ne lui demande pas seulement d'utiliser la technologie, on lui demande d'imaginer de nouvelles façons de mettre en œuvre des technologies pour que l'apprentissage soit plus facile, plus rapide, plus efficace. Et donc, c'est un niveau de compétence qui est très au-dessus de la simple utilisation. Et par ailleurs, il ne faut pas nier qu'il y a aussi des gens qui continuent à discuter, et avec en partie raison, les bénéfices de l'utilisation des technologies en classe, et je dirais volontiers, surtout si elles sont mal utilisées, parce qu'à ce moment-là, ces bénéfices ne s'observent pas, mais il faut bien voir que mettre et utiliser la technologie en classe, c'est d'abord aussi changer sa manière d'enseigner, c'est changer sa façon d'aborder la pédagogie. Et donc, qu'est-ce que les bénéfices sont dus à la technologie en elle-même? J'y dirais volontiers jamais. Ce qui va être intéressant, c'est que votre pédagogie a changé, est différente, et au travers de ça, vous pouvez effectivement mieux mobiliser les capacités d'apprentissage. Et puis, de toute façon, il n'y a pas à reculer. Hein. Les enfants d'aujourd'hui, qui sont dans vos classes, ils sont ce que j'ai appelé digital minded. Ils ont ça complètement dans leur enfant. Alors, fondamentalement, le vrai challenge, ça va surtout être de mettre les élèves en action. Et c'est un petit peu cette photo-là qui a vraiment été prise dans une classe Wallonne il y a déjà un an ou deux. Mais j'aime à regarder ces enfants, regarder chacun d'entre eux, essayer de scruter, vous verrez combien, en les regardant, on les voit complètement impliqués dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont vraiment au travail, ils sont vraiment en train de réfléchir à ce qu'on leur demande. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que l'on va avoir un vrai apprentissage. Benjamin Franklin l'avait vu depuis bien longtemps. Alors, je voudrais terminer ma petite partie en mettant en évidence les fameux trois piliers. Évidemment, l'image que j'ai est en A6, mais ne vous inquiétez pas, on ne parlera que de trois piliers. Le premier, et pourquoi je dis trois piliers, c'est parce que vraiment, il y a trois zones d'apprentissage particuliers ou trois zones d'action particulières des technologies dans l'école qu'il faut bien voir pour bien les traiter. Et les traiter toutes les trois, ne pas se focaliser sur une seule et puis après faire comme si on avait tout réglé. Je pense que la première, c'est évidemment celle quelque part qui était sous-jacente à ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est d'utiliser comme un auxiliaire pour favoriser l'apprentissage. Et là, évidemment, vous avez au niveau des technologies un vrai plus pour apprendre vraiment beaucoup de choses. Vous avez d'abord des sources de documentaires absolument inépuisables, et ce que je trouve important, critiquable, parce que justement la capacité, la compétence majeure du 21e siècle, c'est d'être capable d'être critique vis-à-vis de ce que l'on voit. On nous abreuve de l'information, il faut être constamment critique, et donc elles sont là. Si vous prenez un manuel bien fait, je dirais du 20e siècle, ben, tout ce qui est dedans est bon. Qu'est-ce qu'on peut critiquer, c'est ça la vérité. Mais non, avec Internet, vous avez l'obligation de critiquer, et c'est une compétence essentielle. Alors, vous avez des bandes d'exercices, vous avez des outils, et je les défends, je suis développeur aussi de deux outils, qui vous permettent d'injecter vraiment ce que vous voulez leur apprendre dedans. Il y a trop d'outils aujourd'hui qui livrent des choses toutes prêtes, c'est pas tout à fait ma philosophie. Il est vraiment important d'injecter ce que vous voulez apprendre et surtout ce que les enfants aussi sont en rapport avec ça, ce qui fait partie de leur vécu. Et puis, vous lisez aussi bien que moi, il y a beaucoup de possibilités de collaboration, de rédaction, de publication. Aujourd'hui, on fait des tuctées. Par exemple, qu'est-ce qu'une dictée? C'est une dictée avec Twitter. Et comment ça se passe? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, avec Twitter, une classe, par exemple deuxième primaire, va essayer d'écrire une phrase compliquée qu'on lui aura dictée. Elle va essayer de l'écrire, elle va réfléchir, elle va travailler, peut-être en groupe même, hein, jusqu'à se mettre d'accord sur une écriture pour cette phrase, en allant faire les recherches nécessaires. Et puis, on va la tweeter à d'autres classes, qui ne vont pas avoir nécessairement la même écriture pour cette phrase. Et on va s'échanger des explications, en disant voilà pourquoi j'ai écrit ceci, voilà pourquoi on a choisi, ah bon, il faut aller voir mais ce mot. Et donc là, on a un vrai travail, on a des cerveaux qui fument. Et quand les cerveaux fument, il y a de l'apprentissage. C'est ça qu'il faut faire, et c'est dans ça que même Twitter peut être un outil pédagogique. La classe inversée, etc. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire, mais j'imagine que mon temps est compté. Il ne faut pas. Alors. Je voudrais mettre en évidence peut-être justement un modèle que l'on retrouve régulièrement, qui est le modèle SAMR, qui permet d'analyser un petit peu le niveau justement d'usage des technologies. Et je l'aime bien, il faut le lire en commençant par le bas, mais je préfère cette lecture parce qu'effectivement, ce qui est plus élevé se trouve au-dessus dans le transparent, c'est quand même plus naturel. La première chose que l'on peut faire, c'est simplement substituer l'outil, l'écran, comme vous le disiez là, on le substitue à quelque chose de classique. C'est un petit peu comme si je vous avais distribué des transparents, vous les auriez mis sur le papier, vous les lisez là-dessus. Ouais, c'est plus technologique, mais au bout du compte, ça apporte quoi ? Fort peu de choses. Donc là, on est dans la pure substitution, il n'y a pas d'avantage particulier, et c'est bien un danger. C'est quelque part ce que j'appelle les cours PowerPoint. Hein. Faire ça, c'est « Oh ben, moi j'utilise cette technologie, hein. J'ai PowerPoint. Hein. » Ok, mais tu fais quoi avec PowerPoint ? C'est ça qui va être intéressant. Et donc, au-dessus de ça, on va pouvoir avoir une augmentation, c'est le second niveau, augmentation du temps, on va pouvoir faire des choses que l'on ne pouvait pas faire auparavant. Vous avez, par exemple, votre document sur un ordinateur, au lieu d'avoir sur une feuille de papier, mais vous allez pouvoir annoter, parfois même aller plus loin, en faisant de l'annotation avec d'autres. Vous allez pouvoir, par exemple, vraiment démontrer un principe grâce à une animation. Vous avez quelque chose à le livre, on ne sait pas avoir une animation et voir le moteur en fonctionnement, etc. Donc là, vous avez un niveau supérieur. Et puis, troisième niveau, c'est celui de la modification. Là, on est encore un peu plus haut, on va vraiment modifier substantiellement le travail. On va pouvoir, par exemple, construire des cartes heuristiques, des cartes dans lesquelles on va pouvoir carrément déplacer les choses, retravailler beaucoup plus facilement qu'on ne faisait auparavant. Donc on a vraiment une course. Là, on n'est pas simplement annoter quelque chose, mais on va construire un savoir et on va le restructurer. On va pouvoir collaborer en ligne avec d'autres élèves, d'autres classes pour résoudre un problème ensemble. On va pouvoir aussi avoir une beaucoup plus grande différenciation. On va s'adapter à chacun des élèves avec des exercices de différents niveaux. Et au bout du... au sommet idéal, ou en tout cas le niveau le plus supérieur, c'est celui où il y a une véritable, à un moment donné, redéfinition de la tâche d'apprentissage grâce aux outils, où on va, par exemple, pouvoir dire, mais voilà, au lieu d'étudier, au lieu que ce soit moi qui vous présente la matière, je vais vous poser un problème, et vous allez, avec évidemment toute une série d'aides que je vais vous donner, mais vous allez construire, co-construire ensemble un chapitre du cours en allant rassembler les différents éléments sur Internet, par exemple, et sur différentes sources d'informations. Vous allez pouvoir rédiger en science un rapport de laboratoire qui ne sera plus une histoire, mais qui va être un véritable petit film, voire un jeu, dans lequel on va pouvoir mettre différents éléments, vous allez pouvoir agir, et il y a là une implication très forte des élèves qui va les obliger à démonter complètement les questions dont on traite pour pouvoir les réinterpréter fortement dans le contenu qu'ils vont ainsi créer. Et là, on a vraiment un travail d'apprentissage qui est beaucoup plus important, je crois. Alors, deuxième pilier, c'est celui des TIC, du numérique, comme support à la communauté éducative largement. Et là, vous voyez, ce support, il va pouvoir être donné à la fois à l'élève lui-même, hein, pour stocker son travail, avoir des outils pour pouvoir construire, à la classe dans son ensemble, où on va pouvoir échanger, distribuer, aux professeurs, beaucoup, et c'est important, hein, que le professeur soit soutenu dans son travail, pouvoir gérer ses ressources documentaires, gérer les travaux, les bulletins, les évaluations, etc. Il y a des outils là-dedans. Les parents peuvent être impliqués également, on peut avoir des retours d'informations vers eux et l'administration elle-même. Donc, tous les éléments. Ça, on vous le présentera plus en détail dans la suite, donc je ne vais pas aller plus loin, notamment avec des outils ENT, LMS. Et puis, troisième pilier qui a la cote aujourd'hui, ou qui retrouve la cote. C'est assez paradoxal parce qu'il y a 30 ans, lorsque j'étais tout jeune professeur, on enseignait, je suis très vite intéressé à la chose, et on enseignait l'informatique en enseignant la programmation, parce que c'était la seule chose que l'on pouvait faire à cette époque-là. Et au jour d'aujourd'hui, on va dire, ah oui, mais il faut revenir là-dessus. Il y a des tas de gens qui disent qu'il faut apprendre le codage. C'est une version un peu limitée, et c'est pour ça que je voudrais justement insister sur ce transparent, pour montrer effectivement qu'il y a, que c'est beaucoup plus vaste que le codage, mais qu'effectivement il y a d'une part ce qu'on va appeler aujourd'hui, ce qu'appellent nos amis québécois, la littératie numérique, qui est effectivement l'ensemble des compétences, je dirais, de l'honnête homme vis-à-vis du numérique. Et là, trois niveaux, à nouveau, à l'intérieur de cette littératie, l'utilisation, être capable d'abord d'utiliser les outils, les mettre en œuvre, savoir naviguer sur Internet, envoyer un mail, faire chatter, tous les outils, construire, utiliser la vidéo, des choses comme ça, utiliser à bon escient les moteurs de recherche. Deuxième niveau, c'est celui de la compréhension, parce que aller chercher l'information, mais avoir un regard sur cette information et un regard critique, lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, mais être capable de comprendre vraiment, de réagir, d'utiliser les outils pour pouvoir l'exploiter. Et ça me devient vraiment intéressant que lorsqu'on va au troisième niveau, qui est celui d'être soi-même créateur. Il faut apprendre à créer, je dirais que le premier, le tout premier, dans une certaine mesure, la société est là, et la publicité et les médias sont là pour nous apprendre à consommer. Consommer, ça, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'école pour apprendre à consommer. Tout le reste s'y emploie. Par contre, à créer, à être constructeur, à pouvoir soi-même produire des contenus, là, l'école a un rôle essentiel et c'est vraiment là-dedans qu'on va devoir investir. Pour avoir avec moi, être un véritable utilisateur intégré, capable de manipuler cet outil numérique et tous ces contenus numériques. Et puis, deuxième volet, et Madame la députée en l'a évoqué tout à l'heure, dans une certaine mesure, c'est être conscient aussi de l'identité numérique. Stricto sensu, certains rattachent à la littératie numérique aussi. Moi, j'aime bien le mettre en évidence parce que c'est une problématique qui est quand même très, très claire, très nouvelle. L'identité numérique d'un individu, c'est une espèce de dédoublement de sa propre identité, mais qui a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il est durable, à la limite beaucoup plus durable que l'individu lui-même. Et donc, il est important de la gérer, de savoir, et de savoir ce que l'on met dedans, les données que l'on partage, et aussi de respecter celles des autres, d'apprendre. Ça, il y a toute une citoyenneté, une civilité à apprendre. Et enfin, et c'est là qu'on va trouver le codage, il y a, je dirais, les bases de la science du numérique. On doit aujourd'hui, et j'en appelle vraiment à ce qu'on réforme le programme dans ce sens-là, on doit aujourd'hui apprendre les bases du numérique. Je n'ai pas dit qu'on peut faire de tout élève un informaticien, ne croyez pas cela du tout, mais on doit apprendre les bases. Pourquoi apprend-on ? Nous avons tous appris la méiose et la mitose, nous avons appris l'oxydoréduction, quelques notions de relativité. Et par contre, qui a déjà utilisé la relativité sans le savoir, oui, par exemple, en utilisant le GPS, mais peu de monde l'a utilisé dans son quotidien. La mitose et la méiose, oui, et nous sommes probablement des parents, et donc nous le faisons tous les jours sans le savoir. Mais les technologies numériques, nous y sommes complètement confrontés, et ne pas connaître la façon dont elles fonctionnent, en tout cas les rudiments, c'est tout à fait anormal. Et donc, il y a obligation, je dirais, d'installer cette compétence au sein des autres, à égal des autres, en tout cas, à prendre le pas sur les autres. Et il faut absolument, en tout cas, parce que c'était le débat dans les 30 dernières années, on a à un moment donné cru que Il suffisait d'utiliser les technologies en face, ce qui d'ailleurs ne s'est pas fait, pour l'essentiel, hein, mais de les utiliser, par exemple, pour apprendre toutes les autres choses, c'était mon premier pilier tout à l'heure, de les utiliser pour que, naturellement, on comprenne évidemment les concepts de la science informatique. Si cela est vrai, je dis, eh bien, supprimons le cours de français. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde utilise le français tout le temps pour s'exprimer dans tous les autres cours, sauf les écoles en immersion, parenthèse, tout le monde utilise partout. Et pourquoi est-ce qu'on en a gardé un? Ben parce qu'il y avait quand même des choses à apprendre. Réellement, il en va même du numérique qui d'ailleurs est fondamentalement un nouveau mode d'expression, un nouveau mode vraiment qui quelque part est très proche du cours de langue maternelle. Et j'essaierai à la place ici.